C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un rendez-vous comme on les aime. Cette semaine, l'association Reporters d'Espoir a mis à l'honneur au Palais d'Iéna à Paris la créativité française. 500 acteurs de terrain, décideurs, journalistes ont présenté leurs initiatives éclectiques. Ça s'appelle la France des solutions et c'est là que nous avons installé notre studio.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Gilles Van Der Potten.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Reporters d'Espoir, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
En deux mots, c'est une ONG qui existe depuis bientôt 15 ans et qui travaille pour que l'info donne envie d'agir, pour que les médias soient des accélérateurs d'initiatives et d'inspiration.
Et alors du coup, ces initiatives, vous les traquez, vous en avez découvert plus de 5000, c'est ça?
Oui, on a plusieurs milliers d'initiatives dans nos bases de données, mais derrière toutes ces initiatives, il y a des humains, il y a des réponses économiques, écologiques, sociétales. Et toutes ces initiatives, on a envie qu'elles soient connues, diffusées, et quel autre moyen plus efficace que les médias? Et quels acteurs autres que les journalistes pour nous diffuser cette connaissance et nous livrer un regard à la fois critique et constructif. Donc c'est tout ça à la fois Reporters d'Espoir.
Donc l'idée c'est d'offrir de l'espace médiatique à des innovateurs parce que vous partez du principe que souvent dans les médias, comme on dit, on ne parle toujours que des trains qui arrivent en retard.
Alors c'est vrai que notre constat de départ, c'est il existe des initiatives très intéressantes sur le terrain qui ont un impact, qui améliorent la vie des gens, qui améliorent l'empreinte écologique, qui créent de la valeur écologique, économique. Et hélas, elles n'ont pas toujours voix au chapitre. Alors les choses s'améliorent depuis plusieurs années. Vous en êtes la preuve, RFI, et dans votre émission. Ce journalisme de solution, comme on l'appelle, progresse beaucoup depuis 3-4 ans. C'est devenu un mouvement presque international, puisqu'il y a 15 ans, Reporters d'Espoir était à notre connaissance seul. Et depuis 3-4 ans, vous avez des acteurs qui ont émergé aux États-Unis, au Danemark, en Espagne. Donc cette manière de concevoir le journalisme, qui en fait ne change pas véritablement la manière de pratiquer notre métier, c'est juste le fait d'élargir un peu son spectre, se dire je traite évidemment de dysfonctionnements, on est là pour ça, ils sont grands, les crises écologiques, de biodiversité, climatique, etc. sont conséquentes, mais la question nouvelle c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois qu'on est conscient de ces problèmes, il y a sans doute des réponses partielles, peut-être pas des solutions, c'est très ambitieux le terme solution, mais des réponses locales, à différentes échelles. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Alors on ne va pas vous contredire évidemment dans C'est pas du vent. Alors vous avez une cinquantaine de médias partenaires cette année, dont RFI, qui se mobilisent pour rendre visibles pendant toute cette semaine ces projets innovants. Comment est-ce que vous les sélectionnez, ces projets, sur quels critères ?
Alors on a deux manières de faire. D'une part, on lance des appels à candidature et on a pu détecter quelques 200 initiatives nouvelles cette année, en l'espace de 2-3 mois d'appels de consultation.
Ça veut dire qu'il y a un gisement extrêmement important.
Oui, il y a un gisement. Alors, il faut faire le tri aussi. Beaucoup de gens se disent « j'ai la solution ». Notre rôle de journaliste, c'est quand même d'analyser tout ça, de regarder est-ce que c'est une belle idée ou est-ce que c'est déjà concret, ça porte déjà des fruits sur le terrain. C'est quand même ça qui nous intéresse, même si on ne s'interdit pas la prospective ou l'innovation,
vous
évidemment.
Vous mesurez l'impact.
C'est l'idée. Alors parfois on le mesure nous-mêmes, parfois on laisse nos confrères et nos consoeurs journalistes faire leur travail. Nous on va simplement dénicher, identifier ici ou là des initiatives sur appel à candidature ou spontanément. On fait de la veille, on a des équipes, on a des bénévoles partout en France qui nous indiquent des initiatives locales qu'ils ont identifiées ici à Nice, là à Lyon ou à Lille ou à l'étranger d'ailleurs. On a de plus en plus de relais internationaux. Donc voilà, tout ça nous permet de sourcer, comme on dit, des initiatives concrètes.
Alors justement, nous avons avec nous quelques-uns de ces porteurs de projets innovants. Bonjour Jean-Paul Augereau.
Bonjour.
Alors vous avez dirigé des industries textiles. Enfin, il y a peu de vie en une avec vous. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien, j'ai créé ma première entreprise en 1995. Et puis j'en ai racheté plusieurs. Donc j'étais dans l'industrie textile et dans l'impression textile. Un jour, en me lavant les dents en Égypte dans un hôtel, j'ai contracté une septicémie, ce qui m'a détruit ma valve aortique et on m'a fait une greffe humaine. Suite à ça, j'ai fait un burn-out. Et dans ma reconstruction, ça a été de rechercher du sens, de l'envie et de l'enthousiasme.
Et ça donne Safe Water Cube.
Et ça donne Safe Water Cube, c'est-à-dire que je suis tombé malade à cause de l'eau. Je vis parce que quelqu'un m'a donné quelque chose et ça a été de se dire, je vais essayer de redonner quelque chose aux autres. Donc ça a été un changement de vie complet, total, et puis un travail ensuite de recherche, de savoir comment je fais.
Alors vous êtes parti du constat qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'avaient toujours pas accès à l'eau potable.
Eh bien aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a plus de 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de l'eau qu'ils consomment. Et surtout, dans les villages des pays les plus défavorisés, 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils consomment. Et ça veut dire qu'un enfant qui est malade, c'est un enfant qui ne va pas à l'école. Et lorsque vous n'avez pas d'éducation, ensuite c'est compliqué pour avoir des formations. Et c'est pour ça qu'on a des populations qui aujourd'hui migrent, non pas parce qu'elles le souhaitent, mais c'est parce que là où elles se trouvent, elles n'ont pas d'avenir. Et elles ne peuvent pas vivre.
Alors du coup, quelle a été votre réponse face à ce constat ?
Ça a été de dire que par rapport à cette eau dont ils peuvent disposer, puisque... Il y a une chose qu'on ne sait pas très souvent, c'est que dans le sous-sol du continent africain, à des profondeurs supérieures à 25 mètres, il y a 660 000 km cubes d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'eau en profondeur. Mais là, nous, l'eau à laquelle on s'adresse, on s'adresse aux eaux de mare, aux eaux de rivière, aux eaux de puits qui sont insalubres et en fait qui rendent malades les populations. Et ça a été de se dire, il faut... Imaginez un produit qui ne puisse pas tomber en panne, puisqu'on est avec des populations qui gagnent moins de 3 euros par jour, donc des gens qui ne vont pas avoir de matériel, qui ne vont pas avoir de formation, et aussi qui ne vont pas avoir d'argent pour pouvoir le financer. Donc ça va être de créer un produit qui ne puisse pas tomber en panne, qui soit très facile à entretenir, qui puissent potabiliser aussi bien, donc, comme je l'ai dit, de l'eau de mare ou de rivière ou de puits, d'une façon simple, sans électricité, sans produits chimiques, complètement mécanique, et qui va permettre d'alimenter une population de 800 à 1000 personnes par jour.
Oui, parce que votre Safe Water Cube peut potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure.
Oui, exactement. Alors, comment ça se passe ? Nous, aujourd'hui, ce sont des associations qui sont déjà implantées dans les villages, sur les territoires, qui travaillent aussi bien dans l'éducation, dans la santé ou dans l'agriculture, voire même dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une implantation sur les territoires, avec une connaissance des endroits.
Vous n'en rajoutez pas une couche, quoi. Vous appuyez sur l'existant.
Ah oui, complètement, puisque si on souhaite que ça soit durable... Il est important de connaître les territoires. Il y a trop d'exemples où des ONG ont creusé des puits sur le continent africain et que ces puits, 3 ans après, 5 ans après, ne sont plus utilisés parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Et surtout, ce n'était pas forcément une volonté des populations. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on vient nous voir, c'est qu'il y a un vrai besoin et surtout une vraie volonté des populations.
Donc on vient vous voir, parce que là vous savez que vous êtes sur RFI, donc les gens vous écoutent, ils vont se dire c'est génial son truc, je vais aller le voir, qu'est-ce qui se passe pour être sûr qu'on puisse avoir ce Safe Water Cube chez soi.
Et donc à partir de là, donc on va monter le projet, donc on va bien établir les règles du jeu, donc on fait des contrats de partenariat entre l'association qui est basée localement, le village, le responsable du village et nous. Donc c'est déjà un contrat tripartite. Avec des règles pour chacun. C'est-à-dire que l'objectif, tout d'abord, ça va être de mettre en relation des écoles françaises avec les écoles des villages pour qu'il y ait un partage, un échange et un développement économique. Économique et social, parce que, en fait, ça apporte à tous. Alors moi, je le vois surtout dans les écoles en France, puisque je passe à peu près 20% de mon temps dans les écoles, ça va de 4 ans à 24 ans. Eh bien, ça permet une ouverture d'esprit et c'est juste fabuleux. Et là-bas, dans les écoles, eh bien, les enfants se rendent compte que même s'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, ils ont cet intérêt de voir comment d'autres peuvent vivre et eh bien, cette créativité, cet échange, c'est génial.
Mais quel lien avec l'eau ? Parce que bon, ok, les écoles et les enfants échangent, mais...
Alors, quel lien avec l'eau ? Eh bien, c'est que derrière, donc le financement d'une fontaine, ça coûte 5 500 €, installée sur place avec notre déplacement et la formation des populations.
Oui, donc c'est accessible à très peu de villages en Afrique.
Pour eux, c'est-à-dire que nous, justement, on va chercher les moyens financiers auprès de particuliers, auprès d'autres fondations, auprès de collectivités, des agences de l'eau. On fait des partenariats avec des entreprises, avec les politiques RSE, de manière à financer les projets. D'accord ? Une fois que le projet est financé, eh bien, on va aller installer la fontaine. Et donc, le partenariat qu'on a signé avec le village, c'est qu'avec le chef de village, on va former 2 à 3 personnes du village qui n'ont pas de travail, sachant que, alors tout à l'heure on parlait de la mixité, il est essentiel, indispensable que des femmes fassent partie du projet.
Mais parce que ce sont les femmes qui s'occupent de l'eau dans les villages.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose, si on souhaite que ça soit complètement pérenne, que les femmes soient intégrées au projet. Et donc ces personnes qui vont être responsables des fontaines, elles vont faire quoi ? Elles vont pomper, puisque c'est une pompe manuelle. Elles vont ensuite entretenir les filtres. Alors, en fait, c'est tout bête, puisque lorsqu'il n'y a plus d'eau qui coule au robinet, on sait qu'on doit nettoyer les filtres avec une brosse et du vinaigre blanc. Et c'est tout.
Et depuis août 2016, donc moment du lancement, vous avez installé combien de fontaines et où aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, on a installé 120 fontaines. Là, d'ici la fin de l'année, on sera à 180 fontaines. Dans 14 pays du monde, donc ça va de Haïti en passant par le Mexique, sur le continent africain, Madagascar, l'Inde, le Sri Lanka et le Cambodge.
Voilà, et ça touche combien de personnes ?
Eh bien aujourd'hui, ça représente sur les 120 qui ont été installés à peu près 90 000 personnes. Et sur les 90 000, ça veut dire qu'il y a à peu près 70 000 enfants qui aujourd'hui ne sont plus malades à cause de l'eau.
Et ça ne fait que 2 ans ?
Et ça ne fait que 2 ans. Mais l'objectif est de réussir à financer 500 fontaines par an.
Voilà, on vous avait promis des innovations avec la France des solutions. Vous êtes servis. Restez avec nous. Une petite pause et on se retrouve toujours avec nos invités et leurs innovations au Palais d'Iéna à Paris.
Fari mayo de me cae.
L'invité, c'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé au Palais d'Iéna à l'occasion de la France des Solutions, un événement organisé par l'association Reporters d'Espoir qui valorise cette année 500 acteurs de terrain et leurs initiatives qui, à leur échelle, changent le monde. Par exemple, construire une maison ou faire des travaux utilise beaucoup de matériaux et donc de ressources naturelles. Et si, au lieu d'acheter du neuf, on réutilisait des matériaux sortis de la benne? C'est l'idée de Joanne Boachon qui a fondé en 2016 l'association Mineca à Lyon, dans le sud-est de la France, où nous l'avons rencontrée.
Alors, Mineca, le principe, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction via trois moyens d'action. Le premier, c'est de sauver des matériaux de la benne à ordures qui sont issus de chantiers de la construction. Le deuxième, c'est d'accompagner les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage dans leur démarche d'économie circulaire. Et la troisième, c'est de sensibiliser le grand public au réemploi via des ateliers de construction autour de la réutilisation, démontable, etc.
Alors pourquoi le secteur du bâtiment est vraiment un enjeu important ?
Alors le BTP, c'est le premier émetteur de déchets en France et c'est le premier extracteur de matières premières et de ressources naturelles. Le BTP, ça représente les trois quarts des déchets en France. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre poubelle chez vous, vous la multipliez par trois. Et dans la construction, un quart des déchets produits seraient réutilisables, c'est-à-dire qu'on jette un quart de matériaux et de produits qui peuvent encore servir, ce qui est complètement inadmissible. Et voilà.
Et voilà pourquoi vous vous mobilisez. Avec votre formation d'architecte, vous avez pris conscience de ça. Alors comment est-ce que vous faites, puisque vous avez créé cette association il y a 2 ans, comment est-ce que vous faites pour récupérer les déchets sur les chantiers ?
Alors, on a réalisé en 2017 une expérimentation où on a fait plusieurs collectes. On est allé collecter des petites entreprises, des grands chantiers, des artisans, des moyennes entreprises et aussi des expositions. Et ce qui nous a permis de nous rendre compte de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas. Et aujourd'hui, on collecte uniquement des professionnels de la construction qui génèrent des gros tonnages de déchets réutilisables.
Qu'est-ce que vous récupérez ?
Alors, on récupère beaucoup de bois. Qui soit brut ou un petit peu plus travaillé. Ça peut être des produits comme du carrelage. Et puis après, ça peut aller à la cloison démontable, les fenêtres, les portes, des tuyaux, de la moquette, du sol souple. Vraiment tout ce qui sert en fait à construire.
Et vous en faites quoi ?
En fait, on redistribue les matériaux collectés à tous les publics et à prix solidaire, c'est-à-dire à tout petit prix.
Et alors, du coup, qui les achète ?
Alors, c'est beaucoup de particuliers autoconstructeurs qui construisent eux-mêmes leur maison, qui font du bricolage. On a aussi des artistes. On travaille avec beaucoup d'associations qui font de la scénographie événementielle, mais aussi des associations autour de la construction, comme le collectif d'architectes, pourquoi pas. Et puis, des professionnels... des artisans qui veulent construire avec des matériaux sauvés de la benne, qui ont une vraie démarche sensible à l'environnement et au réemploi.
Comment vous gagnez de l'argent ?
Alors, le modèle économique repose sur plusieurs sources de revenus. Tout d'abord, les entreprises que l'on collecte nous rémunèrent notre prestation au temps passé. Ensuite, il y a aussi la revente des matériaux aux particuliers et aux professionnels. Et puis ensuite, tout ce qui est conseil en réemploi.
Il y a de plus en plus d'appels d'offres qui incluent cette notion de réemploi des matériaux ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est beaucoup sollicité pour pouvoir apporter notre expertise auprès des maîtrises d'œuvres et d'ouvrages, donc ceux qui construisent et ceux qui font construire, pour les accompagner dans leur démarche de réemploi. Donc c'est diagnostiquer les bâtiments à déconstruire, mais aussi sensibiliser les acteurs du chantier à une meilleure gestion des déchets et au réemploi.
Et l'impact est important dans plein de domaines.
Alors bien sûr, c'est déjà c'est préserver la matière, c'est préserver les ressources naturelles parce qu'on va moins extraire, c'est moins de transport de déchets et c'est moins de déchets enfouis et brûlés. Donc c'est de la matière préservée et c'est aussi du circuit court parce qu'on va chercher moins loin les matériaux. Et c'est aussi créer des emplois non délocalisables puisqu'on crée de l'emploi sur le territoire parce qu'on va chercher des matériaux sur les chantiers du territoire.
Et le lieu où nous sommes pour cette interview n'est pas un hasard.
Pas du tout, non. Bricologie, c'est un lieu qui favorise l'amélioration du cadre de vie. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit le stock de matériaux en partie de bricologie et on participe à l'amélioration du cadre de vie des habitants, justement en diminuant les déchets du BTP et en apportant des matériaux à moindre coût pour qu'ils puissent améliorer leurs habitats par des petits travaux.
Alors pour en savoir plus sur bricologie, on va aller voir quelques bureaux plus loin.
Oui, Anne-Cécile qui s'occupe de l'animation de l'atelier et qui est ébéniste.
Au revoir Joanne, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Je vous laisse devant votre ordinateur.
À bientôt.
Au revoir. Je vais voir Anne-Cécile pour comprendre un peu mieux ce qu'est bricologie. Bonjour.
Bonjour.
Je vous dérange?
Non, pas du tout. Je suis Anne-Cécile de Linotte, je suis salariée à Bricologie et mon rôle c'est d'animer l'atelier de bricolage et d'animer, d'accompagner les personnes qui viennent dans le lieu dans le cadre de leur projet.
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là?
J'étais en train de reporter le programme de ce mois d'octobre.
Alors qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre ici?
Eh bien, au mois d'octobre, il y a les ateliers couture qui se remettent en place de manière plus fréquente. Cette fois-ci, c'est toutes les semaines, les vendredis. Il y a toujours les permanences de bricolage, donc l'atelier bois qui est ouvert deux après-midi par semaine et un samedi par mois. Et toujours la dernière semaine du mois a lieu une semaine d'ateliers, soit sur le bricolage, donc différents, comme par exemple apprendre à décorer une porte, apprendre à utiliser les outils qui sont mis à disposition auprès, ou apprendre à poser du parquet, du sol stratifié par exemple.
Voilà. Alors le cœur de bricologie, c'est l'atelier, on peut aller voir un petit peu plus loin?
Oui, on peut aller vers l'atelier, ça je vais vous montrer.
Alors en y allant, on peut peut-être expliquer aux auditeurs, qui ne connaissent pas Lyon, où est-ce qu'on se trouve ici, parce que c'est important la situation géographique.
Tout à fait, bricologie c'est un lieu ressource pour l'amélioration du cadre de vie. Alors on se situe à Vaux-en-Velin, donc c'est une ville du Grand Lyon, plus précisément dans le quartier du Mas du Taureau. Donc du coup c'est un quartier dit prioritaire politique de la ville, avec plein d'habitats à loyer modéré. Et du coup bricologie se situe en rez-de-chaussée d'une tour d'immeuble.
Qui vient dans cet atelier par exemple, où on vient d'arriver, là où il y a des machines, plein d'outils, des casques, une table qui doit être bien utilisée parce qu'elle est bien découpée.
Oui, la table sert de martyr pour découper. Du coup, l'atelier, il est accessible à tous à partir du moment où on est adhérent. Et pour être adhérent à Bricologie, c'est 5 € l'année. Et donc, l'atelier est ouvert au public deux après-midi par semaine, le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Et une fois par mois, troisième samedi du mois.
Donc, c'est un lieu où on crée du lien social, on fait ensemble. Mais il y a aussi une forte dimension environnementale.
Tout à fait. Du coup, le projet s'inscrit dans une économie sociale et solidaire et on essaye de sensibiliser à tout ce qui est économie circulaire et développement durable en réutilisant des matériaux. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important dans le projet.
Combien de personnes passent ici par semaine?
On est à 165 adhésions en un an et demi, avec une hausse là ces derniers mois. Et en termes de passage, je crois que pour 2017, on les a estimés à entre 1500 et 2000. Donc du coup, ça fait vraiment une mixité et une mutualisation des compétences qui est très large. C'est ça qui est assez intéressant. Finalement, ça se développe à tous les niveaux, quoi.
Merci beaucoup.
Bah, de rien, avec plaisir.
Anne-Cécile Delinotte de l'association Bricologie. Gilles Van Der Potten, je rappelle que vous êtes le directeur de Reporters d'Espoir qui depuis 2004 recense des initiatives constructives, hein, c'est vraiment le cas de le dire, quand on parle de Mineca, qui répondent à des problèmes de société. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage?
Écoutez, c'est une initiative assez intéressante parce que complète. Il y a l'aspect réutilisation des rebuts, réemploi et valorisation de déchets. Transformation des déchets en ressources, donc c'est intéressant du point de vue de l'économie circulaire, et j'entends qu'il y a une démarche participative. C'est une association avec des adhérents qui s'est implantée pas par hasard dans un quartier plutôt pauvre à Vaux-en-Velin, voilà, de pouvoir concilier l'aspect écologique, économique, parce que c'est source aussi d'économie pour les particuliers et pour les villes, et cet aspect social. Voilà, c'est ce qu'on peut rêver de mieux quelque part dans la convergence de toutes ces dimensions.
Ça fait partie des initiatives que vous aimez bien.
Tout à fait.
Alors, autre enjeu environnemental fondamental, la relocalisation de notre alimentation et diminuer l'impact de nos produits alimentaires. Bonjour Charles Guiriec.
Bonjour.
Alors, vous avez créé l'équivalent des AMAP, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, mais cette fois en version marine. Alors, ça s'appelle Poiscaille. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Mais voilà, Poiscaille, c'est un peu comme le panier de légumes, mais avec du poisson.
Alors, il faut expliquer, parce que tous les auditeurs de RFI ne connaissent pas les AMAP.
Alors, en fait, une AMAP, c'est un système où on s'engage vis-à-vis d'un producteur terrien à prendre toute sa récolte dans les 6 prochains mois. Donc, en fait, chaque semaine, on va recevoir un panier de légumes qui sera en fonction de ce qui a poussé la semaine, en tout cas, ce qui est arrivé à maturité la semaine précédente. Nous, on s'est inspiré de ça en disant, en fait, la pêche, c'est hyper aléatoire. Par contre, il y a un vrai enjeu d'avoir du poisson frais, pêché durablement et bien payé aux pêcheurs. Donc on a voulu faire ça, on a assoupli un peu le système parce qu'une AMAP vous engage en général pour plusieurs mois, voire quasiment une année entière. Sur un casier de la mer, donc avec du poisson, c'est un peu plus compliqué de se dire je le prends là ce soir et puis en fait je vais le manger peut-être plutôt fin de semaine quand j'aurai le temps. Les poissons, les coquillages et crustacés tiennent un peu moins longtemps. Donc on a créé un site internet qui permet en fait d'avoir une formule qui est libre et flexible. On choisit la fréquence, si on en veut toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. On peut décaler, on peut annuler, on peut arrêter. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus flexible qu'un système associatif, parce que nous on est une entreprise, donc on a essayé de faire quelque chose qui soit un peu plus facile pour tout le monde et pour permettre aux gens de consommer du poisson frais.
Alors pas uniquement frais, durable aussi.
Ah, ça,
vous avez des critères très exigeants.
Nous on se dit frais, durable, éthique, transparent. Donc tout ça, c'est les 3 premiers, c'est les termes que tout le monde un peu utilise sur n'importe quel site internet qui fait du poisson. On va dire la fraîcheur extrême, à votre service, la durabilité, on est concerné, blablabla. Nous, on a dit, ok, pour être honnête avec les gens, et quand on vous dit c'est durable, c'est frais, moi, au début, j'ai commencé sur des marchés, je regardais les gens, j'arrivais pas à dire c'est frais, alors qu'en fait, ça l'est pas. Bon, en tout cas, moi, mon poisson était frais, donc ça allait.
On se croit un peu dans Astérix et Obélix, mais...
Exactement. Et donc, quand on parle de fraîcheur, nous, c'est 48 heures entre la pêche à bord du bateau, à savoir qu'on vous vend souvent le mythe du poisson frais pêché la veille, mais souvent, il a plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la capture à bord. Quand on parle de durabilité, c'est sur des engins de pêche. Donc nous, on ne travaille qu'avec des hardis dormants. Donc on bannit tout ce qui est chalut et drague, qui sont des engins assez majoritaires dans l'approvisionnement en poissons.
Qui ont de gros impacts sur les écosystèmes.
Impact sur le fond incertain, très discuté, mais très incertain. Et donc comme il est incertain, nous, on préfère pas le faire. Consommation de carbone de carburant et donc émission de carbone très forte. Et dangerosité pour les marins assez forte également. Donc on préfère bannir ces engins, sachant qu'à côté, il y a d'autres gens qui pêchent d'une manière plus vertueuse. Des bateaux de moins de 12 mètres, pas plus de 3 hommes à bord, des sorties à la journée uniquement. Nous, on veut que les marins puissent rentrer chez eux le soir et qu'ils ne passent pas plusieurs jours, plusieurs semaines en mer. C'est assez éreintant pour l'avoir fait, c'est infernal, on a envie d'arrêter au bout d'une semaine. Et il y en a qui font ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Et quand on parle d'éthique, nous, en gros, c'est plus 20% par rapport au prix du marché pour les pêcheurs. À l'envers, chez nous, quand vous payez un casier de la mer 20 euros, il y a la moitié qui va aux pêcheurs. Alors que dans la filière classique, c'est à peine un quart de ce que vous donnez aux poissonniers qui arrivent aux pêcheurs.
Et pas de rejet en mer.
L'ambition, c'est ça. C'est de dire, avec le système des casiers de la mer, comme on sait ce dont on va avoir besoin pour les prochains jours, on peut dire aux pêcheurs, en fait, pour après-demain, on a besoin de tant de kilos de poissons. Avec l'engagement de valoriser toutes les espèces. C'est pas lui dire, on veut les barres, les sols et les turbos. Et le reste, tu le mets à la poubelle. Lui dire, si tu attrapes du bar et de la sole, on sera hyper content, et nous abonner aussi. Mais si tu attrapes du taco, du maquereau, du chinchard, de la vieille, tant que tu fais attention, parce qu'on va te le payer plus cher comme des Parisiens, et que tu vas bien le soigner à bord, on sait que le résultat derrière, il sera hyper bon pour tout le monde. Ça, c'est notre conviction. En fait, on les prendra. Et on va pas les laisser, alors que ces poissons vont être payés quelques centimes d'euros à la criée. C'est des poissons qui sont abondants, donc en fait, il y en a beaucoup. Les stocks sont en bon état, parce qu'ils ne sont pas aimés, donc pas pêchés. Et donc, ils peuvent être débarqués en masse par des bateaux qui vont aller, eux, attraper ces espèces à haute valeur. Et ces captures accessoires vont arriver sur le marché, donc avec des cours effondrés. Et donc, nous, c'est ce qu'on dit. On dit, en posant un poisson frais, bien payé aux pêcheurs pour qu'ils en prennent soin et ramener rapidement, on essaie de changer un petit peu les choses.
Et vous dites, on pourrait même être un outil pour lutter contre la surpêche.
C'est l'ambition première. Moi, Poiscaille, c'est né en étant sur les bateaux de pêche à compter les poissons. Et j'ai vu des pêcheurs qui vendaient en direct et qui vendaient mieux et qui tendaient à pêcher moins souvent. Moi, je crois, et ça commence déjà à arriver, qu'en payant plus cher les pêcheurs et en leur permettant de gagner plus avec moins de poissons, spontanément, ils vont se dire, bah, en fait, je ne vais peut-être pas aller travailler certains jours. C'est ce qu'on voit déjà avec plusieurs pêcheurs qui nous disent, est-ce que vous avez besoin pour demain, après-demain, ce week-end, etc. On leur dit, ah, mais non, mais là, il y a un autre pêcheur qui est en train de pêcher, qui fait une grosse pêche, il faudrait qu'on la valorise. Il dit, ok, bah, je ne vais pas en mer pendant un ou deux jours. Il y a un peu de tempête, je préfère pas y aller. Et ça, c'est le premier effet, donc moins de pêche. Et alors l'effet supplémentaire, si on passe un petit peu à l'échelle, c'est de dire aux pêcheurs, bah, en fait, arrête de pêcher la sole, le bar, qui sont des stocks qui sont soumis à des très fortes pressions, voire surexploités dans certains cas, mais va pêcher du taco, de la vieille, et on les paiera le prix qu'il faut pour que ce soit intéressant et rentable pour toi.
Donc on a bien compris, ça marche pour les pêcheurs et le consommateur.
Eh ben, le consommateur, c'est marrant, parce qu'au début, nous, on a commencé en se disant on est un peu l'alternative, le truc bio-cool. Donc les gens, je pense, sont venus pour ça. Mais en fait, on a eu des retours. Alors, c'est l'effet à Paris, mais je pense qu'on commence vraiment à avoir le même effet en région, de dire, mais en fait, votre poisson, il est hyper bon. C'est-à-dire que j'ai... Ah oui, je suis hyper content. Si j'ai un bar, une sole, ça va être les meilleurs poissons dans ces espèces-là que j'ai mangé de ma vie. Mais en fait, l'autre jour, j'ai eu un taco, et au début, j'ai un peu râlé, parce qu'un taco à 20 euros, parce que nous, c'est prix fixe comme le panier légumes, ça fait quand même super cher, parce que chez le poissonnier, c'est 5 euros, voire 0, parce que ça finit à la poubelle. Mais en fait, votre taco, il était hyper bon. Donc en fait, mes enfants, ils ont mangé du taco, ils étaient super contents.
Et donc, voilà. Vous avez de plus en plus de consommateurs, ça marche bien.
On a passé le cap des 1000 abonnés la semaine dernière. Mmh. Je pense que grâce à Reporter d'Espoir, on va tâter les 1500, où on peut croire qu'à la fin de l'année, on y arrivera. Ce qui nous permet de faire travailler une cinquantaine de pêcheurs. Il y a à peu près, si on fait 100 fois plus, on touche quasiment toute la pêche française. Ce qui n'est pas si énorme que ça, au final. C'est 50 000 personnes.
Ouais. En tout cas, on entend bien votre ambition et nous, on a bien envie de croire que vous allez y arriver. Gilles Van Der Potten, ça, c'est quand même une belle histoire aussi.
Oui, c'est une super initiative dans le contexte qu'on connaît de la pêche en eau profonde, des chaluts, etc.
La pêche électrique.
La pêche électrique, enfin tout ça, on a besoin d'alternatives. Et là, on a une alternative artisanale qui cherche un équilibre entre, je ne sais pas si on dit les stocks de poissons, enfin voilà. Et en plus 100% française, parce que je pense aussi au débat sur la pêche anglaise versus française. Enfin, il y a tout un tas de débats en ce moment. Là, il y a quelque chose d'assez complet. Enfin, vous avez une démarche assez globale.
Alors, autre grand enjeu, évidemment, dont on parle beaucoup, notamment cette semaine où on vous en parlait hier dans C'est pas du vent, le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, a rendu son rapport, c'est l'énergie. Et oui, on sait que nos modèles énergétiques doivent devenir compatibles avec la préservation de l'environnement. Bonjour Jean-Claude Ponce.
Bonjour.
Vous êtes maire de Luxe-sur-Aude, c'est en Occitanie, dans le sud de la France. Et grâce à un financement participatif, un quart des 220 habitants de votre village est devenu actionnaire d'une centrale photovoltaïque. C'est-à-dire que vous aviez plein d'autres choix, vous auriez pu répondre à des appels d'offres classiques, mais vous vous êtes dit non, on va faire avec les gens.
Oui, c'est ça. En fait, on avait été sollicité par des développeurs depuis longtemps qui souhaitaient installer sur les garrigues qui sont au sud des centrales. Mais en fait, on était toujours un petit peu méfiants parce que c'était des projets un petit peu spéculatifs, si vous voulez, basés sur des tarifs de rachat, basés sur de la revente, etc. Et dans les retombées desquelles, finalement, il y avait assez peu de place pour les retombées locales. Voilà. Donc on a essayé de changer le sens des choses et de se dire, ben, investissons nous-mêmes dans notre projet, mobilisons nos compatriotes pour avoir une centrale photovoltaïque qui soit dimensionnée aux besoins de notre commune et de nos villages.
Voilà. Et donc vous avez sensibilisé à la population et en un mois, ça a hyper bien marché.
Ah oui, même moins d'un mois, en 15 jours, on a récolté 270 000 euros. Comme quoi, il y a quand même une bonne prédisposition de nos concitoyens quand on leur propose des démarches claires, des démarches constructives, des démarches qui sont bien cadrées. Ben, ils répondent bien présents sur ces thématiques de la transition énergétique.
Et donc aujourd'hui, ces personnes sont actionnaires de la centrale qui leur fournit quelle quantité d'énergie? Ça représente quoi à l'échelle du village?
Ça représente exactement la quantité d'énergie consommée par le village. On l'a dimensionné comme ça.
Vous êtes autonome aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Nous sommes 80 familles, 250 habitants, et avec un peu moins d'un demi-hectare de panneaux solaires, 4000 m² exactement de parc photovoltaïque, on alimente ces familles-là.
Et comment vous avez incité les gens à mettre la main à la poche?
Eh bien, on a fait un travail un petit peu d'abord d'explication. Hein. On a été les gens du conseil municipal, on a visité toutes les familles pour savoir un petit peu quelles étaient les réticences, quelles étaient les peurs, quels étaient les obstacles. On a fait trois cercles, si vous voulez. Le premier cercle, c'était celui des opposants. Le second, c'était celui des neutres. Et le troisième, c'était celui des favorables. Alors, on a essayé d'amener les opposants vers les neutres et les neutres vers les favorables. Voilà.
Et ça a marché. Et donc, finalement, votre centrale, elle compte, je crois, 286 actionnaires aujourd'hui,
ouais,
c'est ça,
ça.
Dont des enfants d'ailleurs, qui toucheront leur part à leur majorité. Ça,
voilà.
C'est plutôt sympa. Et comme quoi, on dit quoi? Quand on veut, on peut. C'est ça le message?
On dit surtout pourquoi on est si peu nombreux à le faire, alors que finalement, c'est déjà une solution au problème de la transition énergétique. Et c'est une solution aussi pratique pour nos concitoyens, parce que sur ces problèmes de changement climatique et autres, très souvent, les gens sont dans l'angoisse parce qu'ils sont aussi dans l'impossibilité d'agir. Si on leur propose des outils qui sont décentralisés, qui sont chez eux, qui sont à leur portée, eh bien, ils vont répondre. Et c'est ça aussi. Je crois qu'il faut se rendre compte que, quand on parle des ours blancs, c'est loin. Hein, quand on parle de ce qui se passe devant notre porte, quand on s'intéresse à la façon dont ce qui se passe derrière la prise quand on la branche, puisque maintenant on est devenu producteur, vous comprenez? Donc on a des problèmes de producteur. Il faut qu'on regarde la production, qu'on regarde comment ça se distribue, qu'on voit quels sont les réseaux, etc. C'est tout un travail pédagogique qui est quand même important et qui renvoie à la conscience qu'on doit avoir sur notre consommation d'énergie.
Et du coup, vous avez créé des emplois non délocalisables?
Alors, très peu d'emplois, à vrai dire, puisque ça fonctionne tout seul, une centrale photovoltaïque, une fois qu'on l'a branchée. Il y a un petit peu d'entretien, mais vraiment, c'est très léger, quoi. Bon, il y a la pause, bien entendu, il y a ce genre de choses, mais...
Donc aujourd'hui, tout le monde est content?
Ben écoutez, je pense.
Allez, une petite pause et on se retrouve toujours avec nos invités et leurs innovations au Palais d'Iéna à l'occasion de la France des solutions.
Thank you.
écoutez C'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé au Palais d'Iéna à l'occasion de la France des Solutions, un événement organisé par l'association Reporters d'Espoir qui valorise 500 acteurs de terrain et leurs initiatives qui changent le monde à leur échelle. Et il y a urgence, comme le rappelait le rapport du GIEC dont nous parlions hier dans C'est pas du vent. Les citoyens comme ceux que nous avons avec nous aujourd'hui dans cette émission ont compris qu'il fallait donc changer nos modes de fonctionnement pour répondre aux défis environnementaux du 21e siècle. Contrairement à nos décideurs politiques, un paradoxe que décortique le philosophe Patrick Vivray.
C'était très intéressant au moment de la fameuse démission de Nicolas Hulot. Il y avait un commentateur qui disait, mais évidemment, quelqu'un comme Nicolas Hulot, on le voit bien avec ses larmes, etc., il était incapable d'être dans le milieu politique, parce que ce qui caractérise le milieu politique, c'est la brutalité, c'est le fait que chaque jour, il faut s'apprêter à donner des coups et à prendre des coups. Ben, ça veut dire tout simplement qu'on a un milieu politique qui est incapable de, dans son comportement, dans son rapport au pouvoir, dans son rapport à autrui, de comprendre justement que ce qui se joue dans l'avenir de l'humanité, c'est au contraire plutôt du côté de la qualité de solidarité. Donc au-delà de tous les aspects qui sont réels par ailleurs, le rôle des lobbies, etc., il y a cette culture politique qui fait croire que le rapport au pouvoir est forcément un rapport de domination, de brutalité, etc. Alors que le verbe pouvoir, il veut tout aussi bien dire, au sens grammatical, un pouvoir de création démultiplié par la coopération. Et à ce moment-là, ce qu'on demande à des responsables politiques, c'est d'être des cristalliseurs de cette énergie de création. Et à ce moment-là, ils rentreront en résonance avec, effectivement, le fait que dans les mouvements citoyens, mais aussi plus largement, très largement au cœur des sociétés, le rapport à la brutalité, il existe, mais il est statistiquement très, très limité. Ce qui caractérise l'essentiel de nos sociétés, c'est que nous sommes plutôt en paix et nous sommes plutôt dans une situation de rapport, sinon bienveillant, en tout cas apaisé avec autrui.
Comment réagissez-vous à ces propos, Jean-Luc Pons, vous qui êtes maire de Luxeuraude, en Occitanie, dans le sud de la France ?
C'est très juste. C'est vrai qu'on a besoin de solidarité et l'exemple de notre parc photovoltaïque, justement, montre bien que quand on médiatise, quand on explique bien les choses, quand on crée du consensus autour d'un projet, on y arrive. Et je crois qu'il avait tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la fin des projets brutaux, des projets imposés, des projets... Et par contre, c'est important que, face à ces défis du changement climatique, on ait des solutions qui soient négociées, qui soient discutées avec nos concitoyens, oui.
Oui, vous êtes bien la preuve que ça marche. Jean-Paul Augereau, avec votre projet Safe Water Cube, c'est pareil, vous disiez, il faut que la population s'approprie. Là aussi, on change un peu l'attitude de l'aide au développement. On arrête de plaquer sur les gens des idées, mais on leur demande d'être acteurs.
Eh bien, être acteur, pour moi, c'est la principale des choses. D'ailleurs, l'association s'appelle Agir Ensemble. C'est de se dire que l'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt personnel. Et ça pourrait faire que ça vous remplit d'une manière juste fabuleuse par rapport à ce que l'on peut vivre lorsqu'on reste chacun dans son coin.
Charles Guirec, ce que vous faites avec Poiscaille, finalement, on pourrait dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas le ministère de la Pêche en France qui le fait ?
Mais c'est marrant. Ça. Moi, avant, je travaillais au ministère de la Pêche. J'y ai travaillé pendant 7 ans. Et en fait, aujourd'hui, je crois que... Alors, c'est le cas de la pêche. Je pense que c'est peut-être extrêmement symptomatique, mais je crois qu'avec Poiscaille, on a une chance de peut-être changer plus vite la situation ou d'améliorer peut-être plus vite la situation que par la politique. Et c'est vrai. Et en plus, je crois qu'on va être, à un moment, quand on sera un peu gros, en opposition avec certains acteurs traditionnels qui sont soutenus par les politiques. Et ça me faisait penser à un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, les politiques seraient là pour ça, pour voir un peu, prendre un peu plus de recul et voir les gros problèmes. Et à la pêche, là, aujourd'hui, on a un vrai enjeu aujourd'hui, qui est un enjeu de capitalisation des droits de pêche et de privatisation des droits de pêche. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus à avoir de marins en France. Et en fait, les bateaux risquent d'être rachetés par des capitaux étrangers avec des spéculations sur les droits de pêche. Et nous, avec Poiscaille, on espère qu'on les rendra suffisamment solides financièrement pour qu'ils puissent résister à ça. Et c'est dommage qu'au niveau politique, on soit juste sur l'épiphénomène de voilà, les Anglais et les Normands se battent à la coquille Saint-Jacques, réglons ça, puis après on s'en va, on va gérer autre chose. Alors que pour moi, il y a du travail de long terme plus important.
Gilles Van Der Potten, avant Reporter des Soirs, vous aviez coécrit en 2013 avec Stéphane Hessel, enfin c'était en parallèle en fait, hein, Engagez-vous.
Oui.
Alors là, les personnes qui sont autour de nous sont engagées dans leur action. Et c'est ça l'objectif de Reporter d'Espoir, hein, puisque vous dites, c'est les statistiques sur votre page, 25 oui. millions de Français ont pris connaissance de ces projets porteurs d'espoir.
Si on additionne toutes les audiences des médias qui participent à l'opération, oui, on est à peu près là-dessus. Et c'est vrai que pour nous, le levier médiatique est très très important, c'est un levier d'influence considérable. Et s'il permet notamment de donner la parole, non seulement à des acteurs de terrain, mais aussi à d'autres manières de faire de la politique, à des élus, on voit bien que c'est au niveau local que ça se passe, les réponses concrètes. Là, ça nous apprend aussi à faire la distinction entre ce qu'on entend quotidiennement dans les débats nationaux, les petites phrases assassines qui sont commentées par des commentateurs, etc. Et puis la richesse de ces initiatives. Donc donnons plus la parole, davantage la parole à des maires, à des élus qui montrent que la politique, c'est du concret et ça peut être constructif.
Et à des citoyens comme ceux qui sont avec nous autour de la table. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Pancheron d'avoir monté ce studio au Palais d'Iéna et d'avoir réalisé cette émission. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.